Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Éviter les coupures, faire des économies, c'est l'obsession de la saison. Alors que les cours de l'énergie flambent, les autorités misent sur EcoWatt, le bison futé d'électricité, pour fluidifier tout ça. Et sur les bons gestes à observer, on vous dira tout dans 10 minutes. La colère des agriculteurs, ils réclament une meilleure répartition des marges avec les grandes surfaces. Opération coup de poing ce matin près de Lunéville. Et puis les images de vidéosurveillance projetées aujourd'hui au procès des attentats de Nice. Moment aussi attendu que redouté.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
Aujourd'hui on part pour Tréfieux en Loire-Atlantique où face à l'envolée des prix du bâtiment, on a choisi de faire l'école dans une yourte. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Au secours, ils sont de retour. On vous dit tout sur les poux. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, et aujourd'hui, on s'arrête sur les secrets du roi de la mode. Qui ça ? Charles III. La question du jour sur RTL.fr, hausse des factures d'énergie, avez-vous déjà commencé à faire des économies ?
Autant de sujets que vous pourrez évidemment aborder au 3210. J'ajoute deux sujets possibles. Le travail est-il une valeur de droite ? C'est Sandrine Rousseau qui a dit cela aujourd'hui. Et puis faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar ? Est-ce que vous allez suivre le mondial ? Éric Cantona a appelé au boycott au nom du climat et des travailleurs exploités.
Mais avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cette après-midi.
Retour du soleil dans le sud, mais ça reste instable sur les régions centrales.
Merci Peggy, la météo complète évidemment à la fin du journal.
RTL Midi.
L'illustration du malaise profond de la profession, cette action coup de poing des agriculteurs en Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui, ils veulent renégocier les prix, réclament aux grandes surfaces une meilleure répartition des marges et sont donc une cinquantaine à bloquer depuis ce matin les entrées et sorties de la plateforme logistique Carrefour de Moncel-les-Lunéville, Samuel Goldschmidt.
Oui, car étranglés par les hausses massives de charges, plus un été terrible de sécheresse, les agriculteurs veulent, ont besoin de revoir les prix. Denis Piard est le vice-président de la FDSEA de Meurthe-et-Moselle.
Ça pourrait être n'importe quelle plateforme de la grande distribution, mais on vise aussi Carrefour parce que c'est un des moins bons élèves. On a des soucis au niveau de la renégociation des prix d'achat de nos produits. C'est essentiellement sur l'élevage. Pour donner un chiffre sur le lait, en grande surface, on trouve le lait entre 65 et 70 centimes. Et il faudrait qu'il soit à plus de 90 centimes si on tenait compte de nos coûts de production.
D'autres marques que Carrefour sont en train de jouer le jeu, mais très peu. Les agriculteurs avertissent, si l'on continue à ce rythme, ce n'est pas seulement la moutarde qui va manquer dans les rayons.
Ma génération qui a 50 balais, 55 ans, qui a l'habitude de travailler pour pas grand-chose. Mais les jeunes qui arrivent derrière, ils disent « Mais moi, je ne veux pas faire du lait pour rien gagner. » Ma bonne femme va me dire « Mais tu n'es jamais là, tu rentres à pas d'heure, tu ramènes pas de salaire, mais on va pas faire de lait. » Et ben, une fois qu'on n'aura plus de lait, ben, c'est mort.
Voilà, parmi les manifestants ici, il y a des exploitants qui réfléchissent à diminuer leurs troupeaux, une tendance dont on parlait ce matin sur RTL et qui va se poursuivre.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt en direct de Moncel-et-Lunéville pour RTL. La hausse du prix du gaz et de l'électricité, elle, sera limitée à 15% l'an prochain. Annonce du gouvernement grâce au bouclier tarifaire, un chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros selon les foyers sera aussi versé à la fin de l'année à 12 millions de foyers les plus modestes.
C'est un moment particulièrement difficile qui s'annonce aujourd'hui au procès de la de Nice.
Avec la diffusion des images de vidéosurveillance, des images particulièrement violentes, de dire même du président Laurent Raviot, mais qui, d'après lui, pourrait éclairer la cour sur le nombre de victimes et aider les parties civiles à mieux comprendre ce qui s'est passé ce 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Au procès en appel des attentats de janvier 2015, cette fois, c'est un survivant de la tuerie de Charlie Hebdo qui témoignait ce matin, Rhys, le directeur du journal, qui à la barre a revécu une fois de plus le cauchemar du 7 janvier, Anne Le Hennaff.
Oui, d'une voix calme et sans colère, les yeux dans le vague, Rhys se souvient des premiers tirs, deux claquements secs. Je savais que mon tour allait arriver, je me préparais à mourir. Une balle lui traverse le poumon, puis les tirs s'arrêtent, l'air était blanc. J'ai compris que tous les autres étaient morts. Dans la salle, les yeux de plusieurs autres survivants de Charlie se mouillent. À la barre, Rhys parle maintenant de l'après, du combat contre les intégrismes. Il fallait continuer à faire Charlie, c'était une réponse politique. Les dessins qu'on fait, on les aime, on les aime pas, mais enfin on n'est pas obligé de les regarder. Le journal est toujours dans un bunker, Rhys vit sous protection policière. On est obligé d'intégrer le fait que ça peut se reproduire, dit-il. Charlie est toujours une cible, sera toujours une cible tant qu'on existera. Et vous aussi, demande une avocate, Oui, soupire Rhys. Dans le box, les deux accusés, condamnés à 20 ans et à 30 ans de prison pour avoir aidé les terroristes, sont affalés. Invités à réagir, l'un des deux lâche « Je ne sais pas quoi vous dire, ça nous dépasse ».
Compte rendu d'audience signé à Neuenaf pour RTL. Englué dans les accusations de chantage à la sextape et de détournement de fonds publics, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, doit maintenant faire face à la colère des agents municipaux. Ils sont une centaine à avoir forcé ce matin à l'entrée de l'hôtel de ville pour obtenir des explications du maire, Gaël Perdriau, qui a par ailleurs déjà été exclu du parti LR. Et puis le feu n'a pas progressé cette nuit en Gironde, où plus de 3700 hectares ont déjà été dévastés par les flammes. Plus de 1800 personnes évacuées dans les communes de Somos et de Sainte-Hélène.
Près de 6 km de file d'attente, des heures et des heures pour quelques secondes de recueillement devant le cercueil de leur reine. Les Britanniques s'arment de patience pour rendre hommage à Elisabeth II.
La reine, oui, dont la dépouille repose jusqu'à lundi à Westminster Hall pour permettre au public de venir la saluer une dernière fois. Toute la matinée sur RTL, Valentin Boisset était aux côtés de ceux qui patientent de longues heures durant. On vous retrouve donc maintenant, Valentin, avec ceux qui ont réussi cette fois, qui ont pu aller se recueillir quelques instants.
Oui, ceux qui sortent actuellement de Westminster sont arrivés dans la file en pleine nuit. Alors après des heures d'attente, l'émotion submerge certains. Joséphine tient un mouchoir dans ses mains.
Tout le monde était habillé en noir. Certains avaient ses chapeaux de funérailles. C'était très spectaculaire. Avec cette couronne sur le cercueil et tous ces objets, c'était très respectueux, très silencieux.
À son poignet, il y a un bracelet jaune. Il est distribué par des bénévoles pour bien identifier ceux qui attendent des passants. Joseph a fait 7 heures de queue.
J'ai été submergé. C'était rempli de paix. Je viens de York, mais quand on pense à tout ce qu'elle a fait pour nous, c'était le minimum.
Un peu plus loin, il y a la file d'attente. Le chef de la sécurité informe que les gros sacs ne sont pas admis. Cette consigne marque l'entrée dans le dernier kilomètre de queue. Encore 2 heures pour Amy et Emmanuel.
J'ai ramené plein de nourriture. Je voulais un stock pour mon confort.
En réalité, on passe du bon temps dans cette queue. Je me suis fait plein d'amis, vraiment des amis.
Ceux qui arrivent actuellement dans la file pourraient n'accéder au cercueil que demain matin.
Valentin Boisset, l'un des envoyés spéciaux de RTL à Londres. Le sport et l'équipe de France de basket en demi-finale de l'Euro après sa victoire en prolongation 93-85 contre l'Italie. Les Bleus retrouveront la Pologne demain à 17h15. Ce sera à suivre sur W9. La météo, on vous retrouve comme promis, Peggy Broche. Avec une bonne nouvelle en tout cas pour le sud.
Oui, parce que c'est vrai que les éclaircies sont de retour. On n'est plus sur un ciel agité comme hier. On a du soleil et même un très beau soleil sur le pourtour méditerranéen entre l'Aquitaine et le sud des Alpes. Là, c'est un ciel entre nuages et éclaircies. Elle est peut-être quelques gouttes cet après-midi vers la Gironde et le Pays Basque et une averse orageuse au pied des Pyrénées. Mais sinon, c'est un temps calme. C'est un temps calme également au nord de la Loire entre nuages et éclaircies. Peut-être quelques gouttes sur les Hauts-de-France dans l'après-midi, mais rien de bien méchant. Et ça reste sur les régions centrales instables. Entre la Bourgogne-Franche-Comté, le nord des Alpes, en allant vers les Charentes. Là, on a un ciel bien nuageux, des averses et des averses orageuses sur le centre-est. Tout ça sous des températures en baisse, surtout au nord, de 17 à 20 degrés près de la Manche, 21 à 24 au nord, 26 à 31 au sud.
Merci beaucoup, Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Tous les jours vers 12h10, nous parcourons notre beau pays. RTL Midi, un jour chez vous, chaque jour, donc l'info au plus près de vous.
Avec nos correspondants qui quadrillent donc la France, aujourd'hui direction la Loire-Atlantique. Bonjour Mathieu Lopineau.
Bonjour Céline, bonjour Pascal.
Mathieu, vous nous emmenez aujourd'hui à Tréfieux, petite commune près de Châteaubriant, où la mairie devait construire une 4e salle de classe, mais les prix, la hausse des prix dans le bâtiment est tellement forte que le bâtiment a été abandonné et qu'aujourd'hui on fait classe dans une yourte.
Oui, effectivement, c'est assez surprenant quand on rentre dans la cour de cette école. En plein milieu, trône cette yourte, on ne voit que ça, c'est assez magique parce que c'est une sorte de grand chapiteau de cirque de mètres de haut, recouvert d'une toile blanche et à l'intérieur...
Bonjour.
Et c'est les deux installés derrière leur pupitre dans cette grande pièce ronde de 110 mètres carrés. Tous sont très fiers de leur nouvelle salle de classe, que Ryan et Salomé.
On
a beaucoup de chance, tout le monde n'a pas une classe comme celle-là.
C'est agréable de travailler ici ?
Beaucoup. C'est bien aussi que les murs ne soient pas trop épais parce qu'on entend plus la nature. Par exemple, les moutons, je ne sais pas si on peut dire aboyer, ils aboient, mais c'est agréable. À part quand il y a les CP qui jouent dans la récréation, il y a du mal à se concentrer, quoi.
J'ai déjà dormi une semaine dans une yourte.
Donc là, tu as quand même l'impression d'être en vacances ?
Oui.
Ou d'être à l'école ici ?
Bah, j'ai l'impression d'être à l'école et en même temps en vacances.
Bon, c'est assez original, évidemment, Mathieu, d'accueillir une classe dans une yourte. C'est pas trop rudimentaire ?
Alors, c'est vrai que la toile est fine, l'isolation phonique et thermique est faible, mais il faut admettre tout de même que c'est très agréable à l'intérieur. C'est plutôt cocooning, comme on dit. Et Claire, l'enseignante, est très ravie d'enseigner dans ces conditions.
La lumière vient de partout, de tous les côtés, et notamment du plafond où, si vous voyez, en levant la tête, on voit le ciel. Donc on est dans un espace vraiment très chaleureux, très lumineux. Je pense que ça facilite l'apaisement. Le fait de sentir du bois, le fait de voir du bois, c'est le côté nature, hein. On est tous plus ou moins pareils. On se sent mieux dans un espace naturel que dans un espace en parpaing, etc. Très agréable. Donc la yourte convient tout à fait à la philosophie que j'aimerais inculquer à mes élèves.
Pas trop inquiète pour l'hiver ?
Pas du tout, parce qu'on en parlait justement ce matin avec les enfants et on se disait qu'on mettra un pull supplémentaire, voilà, pour pas mettre trop de chauffage, donc on est pas mal.
Et Mathieu, la yourte, c'est la seule solution que la mairie a trouvée ?
Oui, des travaux d'extension étaient effectivement prévus, mais le maire de Trécieux, Didier Bruet, a vu la facture grimper comme beaucoup en flèche, plus 40% avec la flambée des prix des matières premières.
Ce coût de travaux a explosé. Eh ben, on est passé en gros de 275 à 431 000. Vous comprenez aisément que les subventions d'État, malheureusement, ne suivaient pas. Lors d'un conseil municipal, tout simplement, un de nos élus nous a proposé la yourte. Entre le modulaire et la yourte, vous vous imaginez bien que la yourte a reçu un suffrage total. Hein, on était à 100% OK pour l'installation de la yourte.
65 000 euros pour cette yourte installée en 3 jours seulement au printemps dernier par une société vendéenne.
C'est vrai que c'est rapide. Merci beaucoup Mathieu Lopineau à Trécieux, donc en Loire-Atlantique aujourd'hui.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et dans un instant, EcoWatt, le bison futé de l'électricité qui doit nous éviter les coupures. Et quand on nous alerte, qu'est-ce qu'on éteint en priorité ? Bien, on vous dit tout dans une seconde.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Mais oh, c'est pas Versailles ici, hein.
C'est pas Versailles.
Les Français appelés à être vigilants cet hiver avec leur consommation d'énergie pour faire des économies bien sûr, mais aussi pour éviter les coupures en cas de grosses tensions sur le réseau. Alors comment être un bon citoyen énergétique ? Vous vous êtes posé la question, Vincent Derosier, bonjour.
Bonjour.
D'abord peut-être en utilisant ce que RTE, hein, qui distribue l'électricité en France, ce que RTE donc présente comme un bison futé de l'électricité, ça s'appelle EcoWatt. Qu'est-ce que c'est, Vincent ?
Bah, c'est un bison de l'électricité, une météo de l'électricité. Ça vous donne les prévisions de consommation sur 4 jours. C'est piloté donc par RTE, le gestionnaire de réseau. Et petit bonus, si vous laissez votre numéro de téléphone sur le site et qu'il y a un risque de coupure de courant, vous recevez un SMS, une alerte. Et dans ce cas, bah, il vaut mieux baisser le chauffage ou attendre pour lancer une machine, on va en parler. Alors ça marche bien, le problème pour l'instant, c'est que ça n'est pas une application smartphone. Il faut s'inscrire sur le site et seulement 100 000 Français l'ont déjà fait.
Il y a des choses peut-être plus intuitives, plus simples qu'EcoWatt.
Alors vous avez le choix, oui, installer par exemple un thermostat connecté qui vous guidera et vous fera économiser entre 15 et 20% sur la facture de chauffage en programmant par exemple les heures où vous êtes absent de la maison. Le problème c'est que c'est pas donné jusqu'à 250 euros pour l'installer. Il y a aussi des applications de coaching comme HelloWatt. Alors cette application elle est gratuite mais elle pompe vos données des compteurs Linky ou Gaspar pour le gaz et elle analyse donc les appareils qui consomment plus. Enfin, il y a les comparateurs. Certaines entreprises gèrent vos abonnements pour vous au jour le jour et vous font basculer en permanence vers l'opérateur le plus intéressant.
Mais alors, une fois que je suis alerté, soit par EcoWatt, soit par d'autres applis, sur la tension qui existe sur le réseau, qu'est-ce que je fais chez moi ? Qu'est-ce que j'éteins en premier ?
Alors, on commence par quelle pièce ?
La cuisine ?
La cuisine, très bien.
Au hasard.
Éviter le four, la friteuse.
C'est le plus énergétique, je crois, le four.
Le four, le plus énergétique devant. La friteuse, ouais. Mais on ne fait pas des frites tous les jours. Enfin,
ça dépend, mais...
Le soir, peut-être pas, quand même. Attention, Céline, hein. 5 fruits et légumes par jour.
Mais le four, c'est vraiment très énergétique.
Voilà, plus de 4000 watts devant la friteuse, les plaques de cuisson. Et après, il y a le petit électroménager... ça tombe pas sous le sens, mais la bouilloire consomme plus que le grille-pain, vient ensuite la cafetière, les robots multifonctions. Mmh.
Voilà, la machine à laver, la machine à sécher.
Ça, il faut évidemment repousser. Ça dépend si vous les avez dans la cuisine ou dans la salle de bain, mais machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, il faut attendre pendant les gros pics de consommation, c'est certain.
Et on entendait au début de ce sujet, c'est pas Versailles ici, ça veut dire qu'on éteint tout quand on est alerté, toutes les lumières, la box par exemple, on se prive d'internet pendant quelques heures ou c'est pas la peine?
Oui, ce sont des petits appareils, mais il ne faut pas oublier le principal en cas d'alerte, c'est de baisser le chauffage. On n'en a même pas parlé là, en parlant des différents appareils. Oui, évidemment, vous reculez votre machine à laver, l'heure de la machine à laver, mais c'est d'abord le chauffage, c'est jusqu'à 13 000 watts. Donc c'est ça qu'il faut baisser en priorité et qui va faire descendre le pic de consommation. Et dans le salon, déjà, si vous avez des lampes halogènes, vous les faites remplacer tout de suite par des ampoules LED. C'est 500 fois plus consommateur d'énergie que des ampoules LED. Si vous êtes accro aux séries, regardez plutôt ça sur une tablette que sur la télévision, ça consomme un peu moins. Mais là, ça se joue à la marge.
Écoutez, merci.
Bon, pour les séries, vous inquiétez pas, Pascal ne consomme pas trop d'énergie. Vous n'êtes pas très client.
Non, la dernière série que j'ai dû voir, c'est Columbo. Donc effectivement, on pourra faire autrement. Merci en tout cas, Vincent.
De rien.
Et le
sèche-cheveux, attention, c'est très consommateur d'énergie. Oui. Attendez pour vous sécher les cheveux, Céline. Moi, j'ai arrêté.
Oui, c'est ça.
Justement, puisque vous parlez des cheveux, dans un instant, RTL Votre Vie, ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Gare au Pou, POUX. On en parle tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13. RTL Midi, votre vie.
Effectivement, tous les jours, votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Maman, il y a des poux qui font des guillemets sur la tête.
Ah, c'est l'un des cauchemars de la rentrée pour les enfants et leurs parents. Ce petit mot dans le carnet de liaison indiquant que les poux, ces vampires de la tête, sont présents à l'école. Alors, comment essayer de passer entre les gouttes? Est-ce une fatalité? Pour en parler, nous sommes avec Marie Jourdan, membre de la Société française de dermatologie. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, est-ce qu'on est tous égaux face aux poux ou est-ce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler vulgairement des têtes à poux? Ça dépend de la nature des cheveux ou pas du tout?
Alors, en fait, il y a des têtes à poux pour deux raisons. Ah. Déjà parce que les poux ont besoin de s'accrocher sur le cheveu. Et c'est vrai que selon la forme du cheveu, il peut plus ou moins avoir une facilité à s'accrocher. Donc, par exemple, une tête crépue, le cheveu va être plus rond et le poux aura plus de mal à s'accrocher dessus. Et puis l'autre facteur, c'est que des études ont montré que c'était plus fréquent chez les petites filles, non pas parce que c'est des têtes à poux, mais parce qu'elles font plus de câlins peut-être, elles s'approchent plus des cheveux des autres.
Mais est-ce que les enfants sont plus touchés que les adultes ?
Alors oui, les enfants sont plus touchés que les adultes. D'ailleurs, pendant longtemps, c'était vraiment l'apanage de l'enfance, le pouls. Et en fait, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des pics chez les adolescents et aussi chez les adultes. Tout simplement à cause du facteur... Non, c'est à cause du facteur technologique, c'est le selfie.
C'est-à-dire, c'est la photo que...
Exactement. Quand on demande à tout le monde de se rapprocher pour rentrer dans l'écran du téléphone, et tout le monde se colle, les têtes se collent, les cheveux sont en contact les uns avec les autres. Et c'est un gros facteur de transmission des poux.
Bon, le poux, c'est un parasite. Comment on peut faire du préventif pour les éviter? Il y a un shampoing anti-poux?
Alors, il y a beaucoup de produits qui disent qu'ils vont être effectivement répulsifs. Par exemple, même certaines huiles essentielles ou des odeurs de lavande, exactement, qui vont repousser ou créer un environnement pas très propice aux poux. En réalité, il n'y a rien qui est complètement répulsif. Rien n'empêche un poux de réellement venir s'installer. Le seul facteur préventif, il est mécanique. Il est le fait d'arrêter de se prêter les bonnets, les brosses et de s'attacher les cheveux.
Donc les shampoings, c'est n'importe quoi?
Oh, ça, c'est absolument pas à 100%, hein. C'est un petit facteur. Et quand on est, par exemple, collé en train de jouer aux cartes et on a la tête qui touche le pouls, il va pas décider de pas venir sur votre tête parce que ça sent la lavande. Hein. C'est un petit facteur. Ça n'a rien à voir par rapport au facteur mécanique de s'attacher les cheveux, de ne pas s'approcher des collègues ou des petits camarades. Ça, c'est le facteur. Le pouls ne saute pas de tête en tête. Il s'agrippe aux cheveux et s'il voit des cheveux se mélanger à sa touffe à lui, il peut changer de touffe et changer de tête. Mais c'est pas un parasite qui vole. Donc si on empêche les enfants de coller la tête les uns aux autres, ça empêche.
Donc faut pas échanger de bonnet non plus, bien sûr.
Exactement. Les objets aussi peuvent. C'est plus rare, mais ça peut être transmis par les bonnets, les brosses, etc.
On parle souvent des poux à la rentrée des classes parce qu'il y en a plus à ce moment-là ou ça vit pas le reste du temps le poux?
Alors, il vit et il y a tout un phénomène de propagation tout l'été, etc. Il ne vit que sur les têtes des petits humains. Et il y a ce pic de contamination à la rentrée, tout simplement pour un facteur de promiscuité. Les enfants se retrouvent tous, ils sont contents de se retrouver. Et cette promiscuité dans la salle de classe et dans la récréation, c'est ça qui va créer le pic épidémique.
Mais c'est entendu. Mais alors, si le shampoing sert à rien, on fait comment pour éliminer les poux?
Ah, une fois qu'on les a attrapés, là, oui, il y a des solutions. Quand on est un pouilleux, autrefois, on les enlevait mécaniquement. Hein,
avec des peignes à poux.
Les uns derrière les autres. Hein, et puis, effectivement, le peigne. Donc ça, c'est la façon la plus ancienne et qui fonctionne. Hein, c'est le peigne et aller retirer les poux et les lentes. Et puis, l'autre façon, aujourd'hui, elle est chimique avec des produits. Et dans ces produits chimiques, il y a les insecticides. Donc c'est des molécules qui tuent le poux et un peu les lentes aussi. Mmh. Et puis l'autre produit qui est plus... il faut toujours faire deux traitements parce que comme ça ne tue pas complètement les lentes, on tue les poux vivants adultes et un petit peu les lentes. Mais au cas où il y a deux, trois lentes qui aient résisté et qui vont éclore, 10 jours après maximum, il faut refaire un traitement.
D'accord, mais on fait un shampoing et c'est éliminé immédiatement.
C'est éliminé, on va céder du peigne pour aller éliminer quand même des lentes qui tiennent plus bien, etc. Mais les insecticides ont une bonne efficacité, il faut le refaire à une semaine. Et l'autre action possible des produits, c'est pas une action chimique qui va tuer le poux, c'est plutôt une action mécanique, ce sont des produits enrobants. C'est la glue de diméthicone, c'est du silicone, donc c'est ce fameux produit gluant dans lequel on enrobe complètement la tête. Ce sera plus efficace que la mayonnaise. Et ça permet de tuer le poux d'une autre façon, en fait, en l'engluant, en l'empêchant, en l'immobilisant complètement. Et là aussi, on rince, on nettoie ses cheveux avec le petit peigne anti-poux et on refait à une semaine.
Mais la meilleure solution, si on vous a bien compris, c'est de garder ses distances avec tout le monde pour pas trop se gratter ensuite. Merci beaucoup, Marie Jourdan. Je rappelle que vous êtes membre de la Société française de dermatologie.
Il est 12h26, c'était donc RTL Votre Vie. L'info va revenir dans une seconde avec le journal de 12h30 et la deuxième partie de cette heure d'information. A tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Il est 12h30.
Midi.
Le 12-30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
C'est la réforme qui risque d'embraser le pays dès l'automne, la réforme des retraites qui divise jusque dans la majorité. Des images insoutenables mais nécessaires aujourd'hui au procès de l'attentat de Nice, celles de la vidéosurveillance qui ont filmé le camion fonçant sur la foule, elles vont être projetées dans la journée. 9 salariés sur 10 augmentés cette année, la bonne nouvelle du jour, décrypté par Martial You après le journal. Et puis votre rendez-vous culture, LVT midi, juste avant 13h. Aujourd'hui, comment s'habiller aussi bien que Charles III? Car vous verrez que le roi britannique est aussi le roi de la mode. La question du jour sur RTL.fr, hausse des factures d'énergie, avez-vous déjà commencé à faire des économies?
Pour y évoquer évidemment tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Deux interventions qui pourront vous faire réagir également, celle de Sandrine Rousseau qui a parlé de droit à la paresse et que le travail était une valeur de droite. Et puis Eric Cantona, l'ancien footballeur, qui entend boycotter la Coupe du Monde au Qatar.
La météo à la fin du journal, mais déjà une tendance avec vous, Peggy Broche.
C'est instable sur les régions centrales et calme de part et d'autre.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Faut-il passer en force dès l'automne au risque de provoquer une grave crise sociale? C'est l'épineuse réforme des retraites qui est au menu du couple exécutif aujourd'hui. Un déjeuner de travail entre le président de la République et sa première ministre. Et ça, William Galibert, alors qu'au sein même de la majorité, les stratégies divergent sur la meilleure manière d'amener cette réforme explosive.
Oui, c'est ça. Dans la majorité, on ne comprend pas bien la stratégie du patron. Emmanuel Macron passe son temps à dire « Allez, on se met tous autour de la table sur tous les sujets, on dialogue, c'est ça ma nouvelle méthode. » Et là, sur les retraites, le voilà qui semble dire « Bon, tant pis, on y va au bazooka, un amendement s'il le faut, le 49-3 s'il le faut, et on verra bien ce qui se passe ensuite. » Donc les alliés sont très réticents, ils l'ont fait savoir, François Bayrou est inquiet, même le très fidèle Stanislas Guérini qui dirige le parti présidentiel est perplexe, ils disent « On a l'inflation, les factures d'électricité, l'hiver qui va être dur, il faut faire les choses en douceur, sinon ça va péter. » On attend aussi qu'Édouard Philippe s'exprime demain sur le sujet, mais le chef de l'État pour le moment paraît décidé à y aller. Il dit « Si on pense qu'il faut l'unanimité pour bouger, alors on ne fait jamais rien. »
William Galibert du service politique d'RTL.
Et dans le même temps, la gauche, elle se déchire sur la valeur travail.
Déjà le week-end dernier, rappelez-vous, lors de la fête de l'humanité, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon s'étaient livrés à une passe d'armes à distance qu'on pourrait caricaturer comme un débat gauche du travail contre gauche des allocs. Nouvelle pièce dans la machine ce matin avec Sandrine Rousseau, Marie-Bénédicte Allaire qui réclame le droit à la paresse.
Mais oui, Sandrine Rousseau s'appuie sur la réduction du temps de travail, thème défendu par la gauche depuis des décennies et en particulier la semaine de 4 jours, vieille revendication des écolos. Et voici ce qu'elle répond à Fabien Roussel pour qui la gauche doit défendre le travail. C'était ce matin sur France Info, Canal 27.
Moi je vous dis qu'on a un droit à la paresse, je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers, c'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien on a le droit à changer, on a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie, et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours, que là on n'est pas du tout là-dedans, on est dans la valeur travail, mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite.
Une banderille de plus plantée par l'écologiste, après le barbecue, symbole de virilité, Sandrine Rousseau a bien compris que pour exister, il fallait entretenir la polémique, et grâce à Fabien Roussel, elle a même trouvé un partenaire de jeu qui la relance régulièrement.
Le travail est une valeur de droite. C'est une phrase qui pourra faire réagir, j'imagine, nos auditeurs.
L'inflation, elle atteint presque les 6% sur un an selon l'INSEE, 5,9% exactement, avec toujours les prix de l'alimentation qui s'envolent près de 8% de hausse.
C'est un moment à la fois très attendu et redouté à la cour d'assises spéciale de Paris.
Les images de vidéosurveillance de l'attentat de Nice vont être diffusées ce jeudi. De longues minutes d'horreur nécessaires pour certaines victimes. C'est le cas de Carolina que vous avez rencontrée pour RTL, Nicolas Burnand.
Sur le parvis du palais de justice, Carolina marche d'un pas hésitant, éprouvée, grièvement blessée sur la promenade des Anglais. Cette retraitée n'a pas vu le camion arriver.
On était en train de traverser le camion à moi. Il m'a tapé, m'a retourné contre un palmier, fracturé tous les côtés droits, avec une sensation de ne pas savoir si j'étais un être humain ou qu'est-ce que j'étais.
Cette rescapée a dû réapprendre à marcher. Elle garde un souvenir flou de cette terrible soirée. Alors, pour se reconstruire, elle a besoin de voir les images du poids lourd.
Il y avait un mélange de larmes, un mélange de cris. Ça peut m'aider à mieux comprendre comment la brutalité d'un être humain peut arriver à ces points.
Ces 4 minutes d'horreur filmées ont été conservées en un seul exemplaire sous scellé. L'avocate Virginie Leroy défend une centaine de victimes.
Les parties civiles, elles ne veulent pas d'un procès qui soit aseptisé. Ce sont les faits qu'elles ont subis pour la manifestation de la vérité. C'est essentiel que cette vidéo puisse être visionnée lors des débats.
Dans la salle d'audience, des psychologues seront présents. Carolina, elle, s'est promise de ne pas détourner le regard des écrans.
Nicolas Burnand pour RTL.
Mathias Pogba, le frère du champion du monde, est toujours en garde à vue ce midi.
Oui, tout comme 4 autres personnes soupçonnées comme lui d'avoir voulu faire chanter Paul Pogba, de lui avoir réclamé 13 millions d'euros. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Face aux enquêteurs, Mathias Pogba assure lui ne rien avoir fait pour soutirer de l'argent à son frère.
Oui, et c'est sa position depuis une semaine déjà, et il l'a réaffirmé hier devant les enquêteurs. Mathias Pogba nie toute implication dans cette scène que son frère Paul a racontée au moment de sa plainte en mars dernier, en marge d'un rassemblement de l'équipe de France, le milieu de terrain aurait été emmené dans un appartement parisien menacé par 2 hommes armés et cagoulés qui lui ont réclamé 13 millions d'euros. Mathias Pogba se dit donc étranger à tout cela. En revanche, il reconnaît s'être rendu à Turin en juillet dernier. Une visite au centre d'entraînement de la Juventus pour, je cite, « mettre les choses au clair avec son frère ». La garde à vue de Mathias Pogba pourrait être prolongée de 24 heures cet après-midi si les enquêteurs estiment estime qu'il n'a pas tout dit. Quant aux autres, aux quatre autres personnes également en garde à vue, il s'agit d'amis d'enfance du joueur de l'équipe de France, âgés de 27 à 36 ans, des amis dont le rôle reste encore à déterminer.
Merci Guillaume Chesse du service police-justice de RTL.
La Hongrie durcit encore un peu son droit à l'avortement.
Et depuis ce matin, les femmes qui souhaitent avorter doivent passer par une épreuve assez particulière. Émilie Beaujard, elles ont l'obligation, avant l'interruption de grossesse, d'écouter battre le cœur de leur fœtus.
Et oui, les fonctions vitales devront être clairement identifiables. Voilà comment est présenté ce nouveau décret. La femme devra donc écouter pendant plusieurs secondes le cœur de son fœtus, un cœur qui peut être écouté à partir de la sixième semaine de grossesse. Alors, ce n'est pas la première fois que le droit à l'avortement est attaqué en Hongrie. Ce recul est à l'œuvre depuis une dizaine d'années maintenant, depuis la prise de pouvoir du parti nationaliste de Viktor Orban. Il y a déjà les deux entretiens préalables avec les services sociaux, puis les campagnes anti-avortement et enfin des subventions allouées aux hôpitaux qui refusent de pratiquer les IVG. Résultat, les avortements ont été divisés par deux en 10 ans dans le pays. Ça, c'est pour les chiffres officiels. Mais cela ne veut pas dire que les Hongroises avortent moins. Elles le font juste dans de mauvaises conditions.
Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. Et puis en Suède, ce sont désormais les partis de droite et d'extrême droite qui vont s'employer à former un gouvernement après une courte victoire lors des législatives. La gauche, elle, quitte le pouvoir après 8 ans aux commandes du pays.
RTL Midi. Il est 12h37 et peut-être êtes-vous passé déjà à table. On s'interroge aujourd'hui, mais que mangerons-nous demain ?
Au-delà des insectes, évidemment, Pascal.
Oui, quels sont
les tofu. Quelles sont les tendances alimentaires du moment ? Virginie Garin, vous avez assisté pour RTL à la présentation des dernières innovations alimentaires à Paris. En vedette, le vegan, bien sûr, et pour ça, on ne manque pas d'imagination.
Voilà, les industriels se creusent la tête pour créer des substituts à la viande, au poisson, aux produits laitiers. Donc, lors du grand salon mondial de l'alimentation dans un mois, il y aura 1800 innovations qui ont été présentées ce matin. Eh bien, un quart sont des substituts, de plus en plus de lait végétal. Alors, ici, on parle de yaourt au lait de chanvre ou d'épeautre. Le lait végétal, c'est quoi ? Ce sont des céréales réduites en poudre, cuites, et on obtient un liquide blanc avec de l'eau. Donc, le fromage au chanvre, on a du foie gras au végétal, de la viande à la farine. Farine de riz. Autre tendance, c'est la simplification. Les consommateurs en ont marre des listes d'ingrédients à rallonge. Donc les nouveaux produits ont moins d'additifs. Les recettes sont plus simples. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, il y a aussi cette tendance de réduction des emballages. Alors, on a même ici un soda sans bouteille. Donc, vous mettez juste un peu de poudre dans une carafe d'eau. Ça pétille. Alors, dans ce salon, on trouve toujours aussi des produits un peu étranges. Ont été présentés ce matin des cristaux de tomates pour assaisonner la salade, de la bière aux olives ou de la barbe à papa sans sucre. Eh bien, pour goûter, Céline et Pascal, je vous propose de vous donner rendez-vous dans un mois. Je serai en studio avec tous ces produits.
Je peux vous dire qu'il est impatient, Pascal.
Vraiment, je suis impatient.
Ça vous a mis en appétit, Pascal.
Vous viendrez, j'espère, avec la barbe à papa en tofu. Là, vraiment,
promis.
Je suis impatient. Vraiment, j'ai vraiment envie de manger ça.
Je savais que ça vous plairait.
Ah ben non, mais j'ai écouté avec beaucoup, vraiment, d'intérêt tout ce que vous nous avez dit, Virginie.
Hein ? Merci beaucoup, Virginie Garin, pour RTL. Un mot de football, puisque Didier Deschamps annoncera à 14h sa liste pour le dernier rassemblement des Bleus avant le Mondial de foot cet hiver au Qatar. Mmh. Sélectionneur qui va devoir composer avec une infirmerie bien remplie. La météo, on vous retrouve Peggy Broche et pour profiter de l'après-midi cap au sud. Hein.
Oui, parce que c'est vrai qu'on retrouve des éclaircies après le temps agité d'hier, surtout dans le sud-est. C'est du très beau temps sur le pourtour méditerranéen. Les juste quelques averses localisées dans le sud-ouest vers la Gironde, le Pays Basque, mais pas grand-chose. Et puis les nuages vont bourgeonner sur les Pyrénées jusqu'à l'averse orageuse. Sur un tiers nord, un ciel variable avec quelques gouttes possibles sur les Hauts-de-France cet après-midi. Mais il y a encore de l'instabilité sur les régions centrales entre les Charentes, le Limousin en allant vers la Bourgogne, Franche-Comté et le nord des Alpes avec des averses orageuses entre l'Alsace et le Lyonnais. Les températures, elles sont en baisse au nord de 17 à Cherbourg jusqu'à 31 encore à Perpignan et Nice, 29 à Toulouse, 26 à Lyon, 22 à Paris, Mulhouse et Rennes.
Merci Peggy.
Dans un instant, les salaires qui augmentent, c'est logique puisqu'il y a de l'inflation, donc ce n'est juste qu'un rattrapage. Monsieur You est là, c'est le Père Noël, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Et oui, alors que l'on vous parle d'augmentation des prix, que l'inflation atteint près de 6% sur un an, c'est la bonne nouvelle de la
journée. C'est la moindre des choses, genre de vous.
Pascal, cassez pas le sujet tout de suite, on va quand même en parler quelques minutes.
Ce n'est que rattrapage.
Oh, oui, mais... je suis assez d'accord.
Oui, mais parce que vous n'avez pas de magie dans les yeux, ça pétille plus chez vous. Bon, Martial Liu, on vient de vous entendre. Bonjour, vous êtes le chef du service économie. Oui. Et c'est donc vous qui, malgré votre peu d'enthousiasme, nous avez annoncé ce matin que 9 salariés sur 10 seraient augmentés cette année.
Mais je suis très enthousiaste, bien entendu.
Ça fait des mois,
j'ai envie de dire, que je fais des éditos sur l'antenne pour dire c'est au salaire de payer la facture d'électricité, la facture de gaz, le plein d'essence, et pas au gouvernement, ce qui était quand même l'aberration depuis le début de l'année. Alors c'est vrai que là, quand on regarde, on s'aperçoit que quand même, il y a eu un mouvement qui s'est enclenché du côté des entreprises. On est toujours deux fois en dessous de l'inflation, hein, quand même, malgré tout. C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, on est à une hausse moyenne de 3,5% des salaires depuis le début de l'année, l'inflation en est à 7.
Vous voyez. Donc je perds 3% de pouvoir d'achat.
Donc il y a quand même une petite perte de pouvoir d'achat. Heureusement, elle est compensée parce qu'il y a l'augmentation et il va y en avoir encore d'ici la fin de l'année. Et puis par le bouclier tarifaire du gouvernement qui, lui, là aussi, fait la jonction avec ses hausses de prix. Quoi.
Bon, les entreprises peuvent-elles être mises en difficulté par ces hausses de salaire?
Pas si on regarde les résultats qu'elles ont affichés, en tout cas pour les plus grosses. Il y a eu de très très bonnes performances sur 2021 pour les banques, pour évidemment les groupes énergétiques ou pétroliers. Les PME, c'est un peu plus difficile, mais vous avez des carnets de commandes qui sont pleins. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une année 2021 où vous aviez une croissance très très forte. Et puis, elles n'ont pas trop le choix, les entreprises, en réalité. C'est qu'aujourd'hui, vous avez une telle pénurie de main-d'œuvre que si vous voulez garder vos salariés, vous les augmentez, parce que sinon, c'est ça la grande démission. Hein. 1 million de CDI cassés depuis le mois de janvier, c'est quoi? Ce sont des gens qui quittent le CDI qu'ils avaient dans l'entreprise A pour aller chez le concurrent B et prendre une augmentation.
Non, mais donc, les petits artisans, je pense à un cordonnier qui a 2 personnes, qui va payer plus cher son électricité. Si vous lui dites que vous allez aussi payer, qu'il va encore payer plus cher ses salariés, ça peut poser des problèmes peut-être.
Mais c'est l'indexation des salaires sur les prix. Et c'est la seule réponse possible. C'est-à-dire qu'effectivement, alors ça c'était le grand argument qui consistait à dire non mais si on augmente les salariés, ça va accompagner une hausse des prix derrière. Bah oui. Oui, mais enfin bon, en attendant, la hausse des prix qu'on connaît actuellement, elle n'est pas liée au salaire, elle est liée aux matières premières.
C'est entendu, mais mon exemple du cordonnier.
Eh bien, le cordonnier, il augmentera le prix de sa prestation, effectivement.
D'accord. Et alors, c'est tous les secteurs qui sont concernés de manière égale par cette hausse des salaires, Martial ou...
Ce qui est intéressant, quand on regarde les hausses de salaire, globalement, c'est, je vous disais, 3,5, on sera autour de 5, hein, sans doute d'ici la fin de l'année, pour à peu près tout le monde, en intégrant les primes. C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas que des hausses de salaire, vous avez la prime Macron qui peut aller jusqu'à 3 000 euros. Et là, ce n'est pas pérenne. Ça, l'année prochaine, si la conjoncture se retourne, il n'y aura pas d'autres primes Macron. Mais quand on regarde les secteurs qui augmentent, là, vous avez une étude qui a été rendue publique ce matin par Page Group. Vous avez la pharmacie, où là, les salaires ont énormément augmenté. Ce n'est pas un hasard, on est après le Covid. Hein. Vous avez un responsable de fabrication de conditionnement, c'est plus 25% de salaire. Ben oui, parce que on l'a suffisamment dit pendant le Covid, on n'a plus de production en Europe et en France, donc ces postes-là sont rares, donc hyper recherchés, et avec des fortes hausses évidemment. Vous avez tout ce qui est logistique, entrepôt, là vous êtes sur des hausses de salaire déjà.
Dans la restauration également.
La restauration avait passé 16% de hausse lors des dernières négociations. Alors, c'était là, pour le coup, un rattrapage de grille. Vous étiez à 5% au-dessus du SMIC, mais vous avez effectivement des hausses qui se sont opérées, parce que là encore, il n'y a plus de serveurs, on le sait, depuis la sortie des confinements.
Écoutez, c'est une bonne chose.
Oui, c'est une très bonne chose.
Nouvelle, si je retiens quand même que ça ne suffit pas à contenir l'inflation pour les ménages. C'est quand même important de le dire.
Vous mettez les aides gouvernementales plus les hausses de salaire, on commence à être à peu près à l'équilibre.
Bon. Ben écoutez, on va appeler Régis Ravanas, qui dirige RTL. Je ne sais pas s'il nous entend. Et
9 sur 10. On a dit 9 salariés sur 10.
Donc on va proposer une augmentation générale.
Ça fait un, je crois qu'il passe dans un tunnel.
C'est possible.
Merci beaucoup, Martial.
Le prince Charles, dans une seconde. On va parler de mode, figurez-vous. Parce que avec Monique Younès, c'est vrai... qu'il est formidablement bien habillé.
Merveilleusement.
C'est de la grande mesure.
Grande mesure, monsieur. Même
donc
pas
ça,
du
ça coûte,
mesure,
ça coûte, ça coûte quoi
au-delà.
Ce qu'il porte, c'est 15 000 euros le costume, peut-être.
On va commencer par 4-5 000.
Et puis surtout, on va commencer par... attendre quelques instants, vous n'allez pas défricher tout le sujet, Pascal. Bien on la retrouve tout de suite, Monique.
C'est un tease. Il est 12h48.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table, comme vous le savez, tous les jours dans RTL Midi. Et la mode, évidemment, c'est de la culture. On en parle avec Monique Younes, qui est donc là.
Bonjour. Bonjour Monique. On en a beaucoup parlé depuis une semaine du roi Charles III. Ce qu'on sait parfois moins, c'est que Charles III, c'est aussi un roi de la sape. Élu en 2009, l'homme le mieux habillé
dire,
du monde.
J'allais dire, il a que ça à faire en même temps, mais bon, c'était pas très gentil.
C'est pas très gentil parce qu'il avait plein d'autres activités, Pascal. Il a été élu, donc je disais, l'homme le mieux habillé du monde en 2009 par le magazine Esquire.
Il avait que ça à faire, maintenant.
Il va être un peu plus occupé. Dites-nous donc, Monique, quels sont les secrets de ce roi? Jamais à la mode, mais jamais démodé non plus.
Oui, parce qu'il s'est forgé un style bien à lui. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 70, il était mince, il était musclé, on le voyait en saharienne, en costume bleu pétrole, en tenue polo, les filles, et Diana la première, le trouvaient toutes super sexy. Et les photographes adoraient le shooter torse nu quand il changeait de t-shirt après les matchs de polo. Ça, c'est le côté sport. Mais côté ville, Charles III a de tout temps été le meilleur ambassadeur de ce qu'on appelle le « made in Britain ». Tout d'abord, c'est un inconditionnel de la grande mesure. C'est au-delà de la surmesure, le next plus ultra de la couture pour hommes. Charles III est le client du tailleur anglais Anderson & Shepherd sur Savile Row à Londres, une maison centenaire qui offre un choix de 10 000 étoffes. Charles III a ses goûts, des pantalons à pinces un peu fuselés, des vestes croisées à 6 boutons, les épaules naturelles, plutôt tombantes. Il aime aussi les larges revers, des poches sans rabat et deux fentes dans le dos.
Et toujours une pochette.
Toujours la pochette, on va y revenir, ça c'est essentiel pour lui.
Combien coûte un costume grande mesure?
Alors, j'ai appelé, on m'a dit que le premier prix coûte 4500 euros et le prix augmente selon les tissus et les modèles choisis. Par exemple, une queue de pie en cachemire, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros, peut-être 15 000.
C'est pas facile à porter.
Voilà. Alors, Charles III possède des centaines de costumes, disent ses biographes. Il change parfois de tenue 5 fois par jour. Il emploie 4 valets pour entretenir son dressing qu'il a accumulé au fil des années parce qu'une de ses devises est « buy once, buy well », acheter une fois, acheter bien. C'est son côté écolo, paraît-il. Il l'a dit au magazine Vogue, c'était en 2009.
Je fais partie de ceux qui détestent jeter quoi que ce soit. Tant que je rentre dans mes vêtements, je préfère les réparer, les raccommoder plutôt que de les délaisser.
Alors, il est vrai qu'abandonner un costume à 10 000 euros, ça fait
c'est
quand
dommage.
Même un peu mal. Voilà, et d'autant plus que Anderson et Shepherd assurent le service après-vente. Donc, les retouches qu'ils font payer 40 livres et on élargit la taille. On raccommode une veste quand il le faut. Mais si Charles III garde longtemps ses costumes, le plus étonnant, c'est qu'il garde aussi longtemps ses chaussures, qui sont également sur mesure, à 3500 euros la paire.
Ah oui, oui, les souliers.
Son chausseur est John Lobb à St. James Street. Et en 2009, quand Charles III a été élu l'homme le mieux habillé du monde, John Lobb s'est payé une publicité géniale dans Le Guardian. Il a fait publier deux photos de Charles III portant la même paire de Richelieu. Une photo de 1968 et une autre de 2008 avec cette légende. Lobb est très fier que le prince de Galles possède toujours la paire de Richelieu unie, achetée à notre boutique de James Street lorsqu'il avait 20 ans. Il y a plus de 40 ans.
Il a mis 40 ans la même paire de chaussures.
Bah, il a plusieurs, mais il les met, il les remet, vraiment. Et alors, la publicité est géniale parce qu'elle dit, si vous souhaitez la même, il vous faudra patienter plusieurs semaines parce que nos chaussures sont cousues main. La paire vous coûtera 2360 livres pour un modèle standard, 6500 livres en peau de crocodile. Ces chaussures sont essentielles dans le style inimitable du prince Charles. J'ai trouvé ça trop fort pour John Lobb.
Et dans quel état justement elles sont ces chaussures 40 ans plus tard?
Si vous les voyez, elles sont éraflées, craquelées, déformées, mais elles tiennent parce que John Lobb, il refait les semelles régulièrement. Et le roi dit d'ailleurs, plus les choses sont anciennes, plus elles deviennent confortables et familières. Mais le roi, paraît-il, le roi est très très maniaque côté chaussures. Tous ses biographes disent que Charles III demande à ses majordomes de lui repasser ses lacets.
C'est vrai que ça nous arrive pas souvent, nous, de repasser nos lacets.
Non, mais vivement la fin de la semelle, bien évidemment. Mais de qui Charles III tient-il son style?
Alors, il paraît-il de son oncle, le prince Édouard, duc de Windsor, qui avait abdiqué pour épouser
Wallis. C'est lui qui a créé le prince de Galles, pour le coup.
Bah voilà,
le tissu prince de Galles.
Même. Alors, comme son oncle Charles III adore porter un œillet à la boutonnière et jouer avec les couleurs de ses chemises, de ses cravates et de ses pochettes, on y vient. Alors, ses chemises sont aussi sur mesure, de chez Turnbull et Acer, prix de base 900 euros.
Mais quand même.
Il les combine avec beaucoup de goût. Alors, il y a une chemise rayée, rose, à col contrasté, avec une cravate à motif parme qu'il noue très très serré. Mmh. Un nœud de
avec une larme.
Sort.
Il fait toujours une larme. C'est mais très voilà. difficile de voilà, faire voilà, une larme voilà, dans la cravate.
Expliquez ce que c'est la larme.
Mais la larme, c'est
un nœud très 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 serré. On l'appelle demi Windsor. Ouais. Et c'est vrai qu'il affûte un peu le. Bah, le
parce
cou,
qu'il
quoi.
Trouve la larme sous le nœud de cravate. C'est ça qui fait voilà. le grand chic. Avec une petite perle parfois qu'il dépose
voilà,
sur sa cravate.
Voilà, il rehausse le tout avec une pochette qu'il plie, mmh. non pas comme vous, mais de façon bouffante. On dit ça mmh. puffy en anglais, écoutez-le.
Je me soucie des détails, des combinaisons de couleurs. Et je suis chanceux parce que je trouve des gens merveilleux qui fabriquent des choses que j'apprécie. Je suis comme une horloge arrêtée qui donne la bonne heure deux fois par jour.
Et avec un tel savoir-faire, il ne s'est pas lancé dans la mode à un moment donné ?
Mais bien sûr que si, parce que son association caritative, Princess Trust, commercialise depuis une quinzaine d'années des boutons de manchette en argent émaillé ou des cravates en soie. Et en novembre 2020, il a lancé avec des étudiants de mode italiens une collection de 18 vêtements durables pour hommes et femmes qui s'est vendue sur le site Net-à-Porter. Des tailleurs gris à carreaux, des chemisiers en soie colle Lavallière, des manteaux couleur camel, de très très belles matières parce que le prince se veut le chantre d'une mode durable. D'une économie circulaire. Il dit que la mode a toujours fait du bien aux gens. Maintenant, elle doit aussi faire du bien au monde en contribuant à la création d'un cercle vertueux avec la nature. Alors pour lui, c'est une question d'avenir. Des propos qui faisaient vraiment sourire jadis, qui sont devenus en phase avec notre époque. Et je parie qu'il ne changera pas de garde-robe maintenant qu'il est devenu roi 24 heures sur 24.
Et c'est quand même extrêmement classique. Bon, j'ai appris quand même quelque chose, c'est qu'on peut repasser des lacets.
Ben voilà.
Donc ça, c'est quand même une nouvelle.
À votre fer, en heure creuse. Hein.
Bien.
Mais il faut un fer à vapeur.
Ah bon ?
Mais bien sûr. On ne va pas les repasser, les aplatir. Il faut quand même qu'elles restent un peu
Je suis en train de regarder mes lacets depuis tout à l'heure et effectivement, vous avez mis le doute. Merci Monique Younes. Il est 12h58. Vous allez pouvoir réagir sur tous ces sujets dans une seconde. Nous partons avec les auditeurs jusqu'à 14h30.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.